Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Camille, tu veux pas une boule vanille?
Camille, tu veux pas... Allez, Charline, chante!
Non, je ne veux pas la boule vanille, je préfère le citron!
Les deux, là, c'est bientôt fini la régression!
Pardon, mais c'est dingue quand même!
Oui, alors ça, c'est assez dingue que Camille, elle veuille pas d'une boule vanille!
Non, c'est dingue que Henri Dess soit
fou! Ouais, carrément!
Alors ça, c'est dingue. Mais alors attention, déjà, c'était pas Henri Dess parce que Charline, elle te l'a rebaptisé.
Henri Dess Metal est avec nous!
Trash Metal!
Henri Dess Trash Metal. Mais où on est, quoi? Vous imaginez les gens sur la route en train d'écouter? Elle était absurde, cette émission.
Mais les gens, ils ont adoré. Ah ouais. Et attends, si c'est pour dire du mal de mon idole, ça va. Hein.
Non, mais elle était absurde. Écoute ça.
C'est ce que j'allais dire. On boit de la bière dans des gobelets en plastique en les écoutant maintenant.
Oui, exactement. Avec des tatouages sur les bras. Ils ont des bras qui sont si grosses que mes cuisses.
Et ben, moi, je me ferais bien tatouer un truc d'Henri Dess sur les poings.
Les paroles de ta chanson préférée.
Ah ouais, par exemple, ouais, ce serait cool.
Bah, il va pas être déçu, ton tatoueur.
Vous voulez que je vous dise ma chanson préférée? C'est une chanson que vous avez faite sur l'écologie radicale.
Oh bah c'est quoi ?
Qui s'appelle Camion qui fait prout.
Ah, elle est bonne.
Ça va être sympa sur ton épaule ça, Camion qui fait prout.
Oh, je l'adore. En plus, on l'a tous chanté avec lui hier.
Camion sur la route, camion ça fait prout. Camion sur la route, camion ça fait prout.
Mais arrêtez, excellent. Mais imaginez le gars qui sort d'une journée de travail harassante. Il s'assied dans sa voiture, il allume la radio et paf.
Camion sur la route, camion ça fait prout.
Je suis consterné. Voilà.
Mais arrête. Mais quoi, on sait très bien que toi aussi t'as kiffé, hein, tu l'as même dit. Hein.
Henri Dess dans Par Jupiter, c'est ouf.
Allez, vas-y.
Camion sur la route, camion ça fait prout.
Camion sur la route, camion ça fait prout.
Bienvenue sur France Culture, il est 17h09, vous écoutez la start-up émission, mais non, c'est la start-up émission sur la France Inter où chaque jour l'actualité prend une heure ferme. Et voici les trois informations qui bénéficieront d'un sursis avec le port de blagues électroniques. Jérôme Cahuzac n'ira pas au trou malgré le verdict 4 ans de prison dont 2 ans ferme, la prison étant convertie en bracelet électronique. Est-ce un privilège pour les cols blancs?
La justice, vous y croyez encore? Bah, faut bien croire à quelque chose, hein? La justice, c'est comme la Sainte Vierge, docteur. Si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe.
Comment savoir si la fraternité est encore une valeur vivace en France et pas qu'une suite de lettres gravées au fronton des bâtiments publics? Pour savoir si la fraternité est encore une valeur partagée, il nous faut un baromètre. Un sondage dont on observe le résultat chiffré.
Oui, tous ensemble, fraternité.
Les beaux jours annoncent bien des retours et notamment celui des tournois de chevalerie, des reconstitutions médiévales, des joutes et des lâchers de faucons. C'est un loisir mais qui ne se prend pas à la légère sous peine d'être surpris. Hein.
Je devais aller au golf et je tombe en pleine guerre de 100 ans.
Lui fait des lâchers de brèves mais souvent ça part beaucoup trop loin pour les rattraper. C'est Alex Vizorek.
C'est pas faux, bonjour Charline Vanhoenacker. Comment va le camion?
Il fait prout.
Non, on va pas recommencer. Aujourd'hui, autour de la table, eh bien, figurez-vous que c'est une belle équipe. À 17h20, la philosophe du quotidien, celle qui peut convoquer Schopenhauer et Épictète pour parler du nouveau bouchon des bouteilles cristallines. C'est vous, Isabelle Sorrente. Bonjour.
Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de flexibilité.
Oh là là.
17h30, celui qui aime tellement les débats qu'il pourrait passer une soirée à parler véganisme dans la cage des lions aux eaux de Vincennes. C'est vous, Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, moi je suis allé à une expo aujourd'hui à la préfecture de police sur mai 68, vu du côté des CRS.
Une fois j'ai reçu un pavé comme ça sur la gueule.
Fallait faire fleuriste aussi, qu'est-ce que je te dis.
Et à 17h40, celui qui, pour faire rire ses amis, fait parfois semblant d'être de gauche,
Manuel Valls
de l'édito, c'est vous Pablo Mira, bonjour.
Salut Alex, salut Charline, Maurice. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux, la tuerie qui a eu lieu à la frontière entre Gaza et Israël, et je défendrai, Maître Nadjar, s'il vous plaît, remettez-moi à l'enveloppe. Maître Nadjar, Alex.
C'est très serré.
Je défendrai Israël. Ah mince. Bon, bah, je vais chercher de la mauvaise foi et je reviens en fin d'émission.
D'accord. Allez, je me tourne vers celui qui est installé dans cet open space. Vous ratez de peu le concours d'entrée dans la marine marchande. Et vous entrez ensuite...
On commence par les échecs, toujours.
Vous entrez ensuite au Conservatoire National d'Art Dramatique et vous devenez aussi cascadeur de théâtre pendant de nombreuses années. Comédien, vous interprétez des textes de Daudet, Ionesco, Feydeau ou Giraudoux. Au cinéma, vous jouez dans Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré, où vous interprétez le mari dentiste de Valérie Lemercier. Vous tournez pour Gabriel Hayon dans Pédale douce ou sous la direction de Thomas Gilou dans La vérité si je mens 2. Et plus récemment dans Le retour du héros de Laurent Tiard avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. À la télévision, vous tournez dans Kaamelott et dans Hérocorp. Vous enseignez l'art dramatique à l'école Jean Périmoni. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Christian Bugeaud.
Oh oui, la classe.
C'est lui, je l'ai reconnu.
France Inter. Grosse classe. Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Christian Bugeaud.
Bienvenue, merci beaucoup.
À vos côtés, il y a un fan de Kaamelott.
Ouais,
on est tous un peu fans de Kaamelott.
Bon, c'est de la chance. On est fan à 85% et à 15%. Chez qui ça ne pénètre pas.
Ah, il y a des gens chez qui ça ne percute pas.
Non, mais ouais. C'est pas grave. Hein. Ouais. On ne fait jamais faire l'unanimité. Ah, non, non, ça n'existe pas l'unanimité. Non, non.
Christian Bugeaud, il y a aussi cette part de vous, l'enseignant, celui qui enseigne l'art dramatique. Moi, j'ai toujours été curieuse de savoir comment ça s'enseigne. J'ai lu que vous aviez même été élu en 2011 meilleur professeur d'art dramatique.
Oui, restons modestes. Je suis un comédien modeste qui a eu un second prix de conservatoire en 45 ans. Et donc, effectivement, Je suis un comédien, professeur modeste qui enseigne dans deux écoles, plus des cours privés à la Scola Cantorum aussi. Voilà.
Ah d'accord.
Mais alors, comment ça se fait?
Oui, parce qu'il y a des méthodes pédagogiques ou bien chacun
prof,
a
non, franchement, a son un expérience. Prof qui dit, moi j'enseigne selon les méthodes machin, de l'acteur studio, ce machin. Non, non, si, moi je m'en sers. Mais un prof qui arrivait à mon âge canonique n'a pas de propre technique, c'est un peu inquiétant. Il y a des tas de trucs, méthode machin, méthode Weber, méthode machin truc, mais je sais, non, je pense pas, je pense que...
Méthode Bugeaud.
Ouais, c'est ça. Non, mais absolument. Méthode Bugeaud, il y a des trucs qui sont typiques Bugeaud, que je leur enseigne. Par exemple, quand ils sont... Je peux y aller?
Ah oui, oui.
C'est par vous exemple... l'invité hein, de l'émission.
Mais, ouais. Par exemple, il y a, bon, bien sûr que mon personnage, bien sûr, je vais vous faire chier, hein. Personnage, situation et diction qui est très, très, très vaste. Parce que c'est ça qui va mettre en valeur le fameux dialogue, c'est-à-dire ce que vous avez dans le coffre.
Tripes,
oui, dans les tripes. Et il y a parfois, par exemple, l'objet de la colère. Moi, j'ai fait toute ma carrière, moi qui suis calme, tranquille et pacifique, sur la colère. Il est perpétuellement en colère, le dentiste. Il ne décolère pas, le maître d'armes non plus, etc. Il y a une sorte de déformation que je vois rarement et que j'enseigne, qui est que, par exemple, taisez-vous, on ne dit pas ça, et quand on dit « Putain, et il n'y a pas un seul mot de vrai. Ou à un moment donné, dans Molière, il y en a un qui dit, on lui dit, mais pourquoi dit ma Barouin? Ça n'a rien à voir, mais il y a une déformation qui... Parce que tout, c'est Tex-Avery, tout descend, ma Barouin. Mais,
bon, voilà. Il y a un déficit de diction. Il y a un déficit de diction que vous remarquez chez les élèves ou pas?
Énorme, énorme. Un déficit tout court. Hein. Non, mais franchement.
C'était mieux avant.
Non.
Est-ce que c'est pas une qualité pour être un comédien qui a un peu de déficit par moment, parfois pour plonger comme ça?
Non.
Non.
Non, non, on arrête tout de suite cette idée.
Notre métier.
Vous arrêtez votre existence.
Il m'a dit un jour, tu sais, excuse-moi, je mettais en scène. Il dit, j'ai pas appris la scène 3 qui est importante, et ça pour garder ma fraîcheur. Alors évidemment, il s'arrête à la quatrième réplique, il sait plus quoi dire. Non. C'est un travail très fin pour arriver à donner l'impression, il faut mettre la deux chevaux à plat, complètement et la reconstruire, pour donner l'impression, en fait, du plus grand des naturels. Je pense à Jean-Pierre Darroussin que j'admire vraiment dans Dialogue avec mon jardinier. On n'a plus de Darroussin au bout d'une seconde, on n'a plus qu'un jardinier. Et ça, voilà, chapeau.
C'est du travail.
Ouais, c'est du travail. C'est que du travail. Voilà, exactement.
Et vous parrainez un spectacle qu'on pourra voir à Avignon cet été, qui s'appelle Barbara 2050, création de Pauline Massia et Barbara Lambert. De quoi s'agit-il, Christian Bugeaud? Parce que j'ai lu qu'il s'agissait du rapport entre les machines, l'intelligence artificielle et l'humain dans ce qui est un seul en scène humoristique, c'est ça?
Tout à fait. Mais j'ai l'impression que vous savez tout dit. Alors, il y a 7 ou 8 robots. ce qui n'est pas de la tarte, parce qu'on a deux techniciens de génie, dont Louis, salut Louis, pour faire marcher ces 7 ou 8 robots. Oui. Et c'est donc l'intelligence artificielle, oui, et qu'on va traiter. Alors, je ne peux pas tout raconter, parce que ça... Comme,
Mais c'est un peu de mystère.
Non, mais ce n'est pas une chose, ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas une chose triste, mais vraiment, c'est un questionnement sur l'intelligence artificielle en 2050, avec ses avantages et ses inconvénients. Et moi, à mon avis, c'est porteur. Enfin, ça m'intéresse beaucoup.
Ça s'appelle Barbara 2050, et ça sera cet été.
Pardon, et c'est au Théâtre Notre-Dame.
Théâtre
c'est
Notre-Dame.
C'est que des robots sur scène, ça?
Ah non.
Ah, mais voilà, il n'a rien pillé.
Il y en a 6.
Ah ouais, c'est ça.
Le mec je fais pas. D'ailleurs, comme parrain, je fais la voix d'un robot. Je crois que c'est le frigidaire. Je fais le frigidaire, voilà.
Christian Bujou avec nous, dont le dernier film en date dans lequel vous avez tourné, qui s'appelle Le Retour du héros, aux côtés de Jean Dujardin et Mélanie Laurent, film de Laurent Tirard, sort en DVD, ce sera pour le mois de juin. Et oui, génial. C'est Christian Bujou qui est avec nous jusqu'à 18h, les amis, avec aussi Pablo Mira, Isabelle Sorrent, et ses canailles d'Alex et Guillaume. Water Revival. Vous êtes sur France Inter, par Jupiter, by Jove. Christian Bujou, j'ai bien dit, non ?
Bujou, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, oui, oui.
Christian Bujou, starring par Jupiter.
Cristobal Bujou en espagnol.
Wow, oui. On est à l'international, on est sur RFI.
Hey, vous êtes bien sur France Inter, est 17h21. Et pour entourer Christian Bujou, qui est avec nous ?
Les meilleurs. C'est-à-dire Pablo Mira.
Ouais, c'est pas faux.
Ah, il y a aussi Guillaume Meurice et Isabelle Sorrent.
Et de l'information.
Oui.
Allez, c'est parti.
Montrez-moi ce que vous avez dans ce slibard ! Petite pucelle !
Le journal de presque 17h17.
J'entendais la sueur couler dans mon dos.
Alors ça vient ! Vite, 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 vite !
Et on commence par les titres.
Nicolas Hulot dira cet été s'il reste au gouvernement.
Ah.
Ah, il était au gouvernement.
Passons à François Bayrou, qui lui n'y est plus. Hein. Mais il propose de renvoyer dans leur pays les étrangers les plus dangereux.
Ah, François Bayrou vient d'inventer l'extrême centre.
Il y aura des brèves.
Évidemment. Et je déciderai cet été si je continue les brèves l'an prochain.
Il y a un espoir. On commence donc par Nicolas Hulot qui expliquait ce matin chez Jean-Jacques Bourdin qu'il décidera cet été s'il reste au gouvernement.
Et oui, il va plus loin que Macron puisque penser printemps ne lui suffit plus. Là, il va penser été, les amis.
Et apparemment, il n'est pas le seul.
Et non, c'est vrai, Gérard Collomb aussi a dit s'il passe la canicule l'été, il reste au gouvernement.
Passons au chef de l'exécutif.
Oui, Édouard Philippe faisait l'objet d'un documentaire sur France 3. Édouard, mon pote de droite. Et on se rend compte qu'il avait un sacré flair pendant la campagne.
François Hollande, candidat, ça fait aucun doute.
Oui, vraiment, c'est pas un sujet.
Pas de bol. Et c'est pas tout. Quand on a pas de flair, on a pas de flair.
Macron, qu'est-ce qu'il fait? Alors, peut-être qu'il essaie de gagner l'élection présidentielle. Ça m'étonnerait qu'il la gagne. Franchement, je n'y crois pas. Le début du commencement de la moitié d'une seconde.
C'est génial.
C'est magique, c'est non?
Il y a donc une prime à la mesquinerie. C'est bon à savoir.
Sport, ce soir, a lieu un moment historique pour l'Olympique de Marseille qui va disputer la finale de l'Europa League face à l'Atlético Madrid.
Et en ce jour, on a une pensée pour tous les supporters du PSG pour voir l'OM en finale. C'est un peu l'équivalent pour Nadine Morano d'assister à la fête de l'Aïd.
Sport toujours ?
Oui. Hier soir, lors d'une vente aux enchères organisée par la fondation du PSG, Arnaud Lagardère a dépensé 240 000 euros pour acquérir un maillot de Neymar.
240 000 pour un maillot de foot ?
Oui, oui.
C'est beaucoup plus que ce que ça vaut.
Mais c'est son habitude à Lagardère de payer plus cher ce que ça vaut. Je vous rappelle qu'il a embauché Patrick Cohen l'été dernier.
Sans transition, des médias. Demain soir, dans l'émission politique sur France 2, Léa Salamé recevra Olivier Faure, Marine Le Pen, Christophe Castaner, Jean-Luc Mélenchon.
Pauvre Léa, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter tout ça?
Et Laurent Wauquiez.
Et Laurent Wauquiez. Attention, j'espère qu'elle l'aura prévenu que c'est enregistré l'émission. Il faut venir à Laurent Wauquiez.
Et déçu de ne pas avoir été invité dans l'émission politique, Benoît Hamon a protesté auprès de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.
Et oui, d'abord Delphine Ernotte, elle a dit Benoît qui? Et puis on lui a expliqué. Comme si ça allait émouvoir Delphine Ernotte. Elle a viré Julien Lepers et Tex parce qu'il faisait pas assez d'audience. Alors un mec qui fait 6%, fiche complètement.
Et puis Média encore avec cette nomination chez nous à Radio France. Tenez-vous bien. Guy Lagache, nommé directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale de Radio France numéro 2.
Et oui, on a reçu un tweet d'un auditeur disant « Elle est bien pourtant la stratégie éditoriale de Radio France. Il faudrait pas que Guy Lagache... »
Attendez, vous lui avez répondu?
Et moi j'ai répondu à l'auditeur, j'ai dit ne vous inquiétez pas, Sibyl Veil. J'avais aussi Laurence Bloch, mais voilà, c'est l'un.
Je vous rappelle que c'était le présentateur de Capital sur M6, donc hyper calé pour la radio, c'est génial.
Et le service public.
Et on est viré dans 2 heures. Allez, deux brèves.
À Lille, une boucherie vandalisée. La propriétaire accuse des militants véganes. Et si j'étais elle, j'irais me venger en allant pisser dans un champ de quinoa. Paf !
Allez, la dernière.
Et la dernière, Oise, 2 points. La conductrice roulait avec 4,74 grammes d'alcool dans le sang. Je pense que là, on peut même dire la conductrice roulait avec 3 grammes de sang dans l'alcool.
Merci Alex. 17h25 sur France Inter à Paris et à Charon. C'est en Charente-Maritime.
2000 habitants.
Eh oui. c'est de là d'où vous venez, Christian Bugeaud.
Exactement. Tout le monde s'appelle un peu Bugeaud ou Sarrazin, puisque mes cousins germains sont Sarrazins. J'ai ceci de commun avec François Mitterrand qu'on a des cousins germains qui s'appellent Sarrazin. Ça a sûrement une raison. Rien à voir avec Poitiers, mais enfin.
Christian Bugeaud, vous rappelez très certainement des visiteurs. Vous jouiez le mari de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. Vous êtes aussi dans Kaamelott, dans Hérocorp.
On ne connaît que lui.
Bien sûr. Avengers. Et dans Le Retour du Héros, le dernier film de Laurent Tirard qui sort en DVD au mois de juin. Et on va aborder avec vous ce premier sujet. C'est Jérôme Cahuzac qui ne devra pas s'inquiéter des problèmes de savonnette puisqu'il n'ira pas en prison. Sur les 4 années, dont 2 avec sursis, les 2 enfermes sont convertis en bracelets électroniques et 300 000 euros d'amende. La sanction infligée à Cahuzac, c'est donc un bracelet. Voilà qui fait débat en France, même si la prison est rarement la solution, on le rappelle.
Bonne journée.
La routine.
Beaucoup de meurtres en ce moment?
Ça marche pas mal.
Et vous arrêtez les coupables?
Non, le moins possible. coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison.
Pourquoi?
Parce qu'en prison, il contamine les innocents.
Un extrait de Buffet froid de Bertrand Blier. La scène réunit Bernard Blier, Gérard Depardieu et Jean Carmet. Alors voilà pour ce sujet, donc Cahuzac, la fraude fiscale, le blanchiment, donc c'est-à-dire que ses émoluments en tant que chirurgien capillaire sont partis, ont foutu le camp à Singapour et en Suisse. Il a menti, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Et donc on apprend hier qu'il y a 4 ans, dont 2 ans avec sursis, 2 ans ferme, mais qu'il passera pas une seule nuit au trou. Alors même si la prison est jamais une solution, il y a quand même cette question qui se pose et qui fait débat en France. On se dit, est-ce qu'il y a une justice pour les cols blancs, puis une justice pour les gens moins plus démunis? Est-ce que cette décision de justice, bon, c'est toujours délicat de commenter, pas forcément de commenter, mais que ressent le citoyen quand il voit ça? Il se dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait comme sanction pour ces gens-là?
La tôle.
Ok. Mais longtemps ou juste pour voir ce que c'est?
Non, mais c'est, bon, mais oui, c'est peut-être brutal. Mais non. Et alors,
on est chiffonné par ce verdict.
Par
quand
ce
même,
cas-là, il est compliqué parce que c'est pas une absence de justice, c'est une justice qui nous convient pas. Donc, c'est
ce qu'on peut dire quand même, c'est que déjà les Français sont pas très très confiants. On parlera de la confiance tout à l'heure, je crois. Mais c'est un exemple comme ça, c'est quand même bon. C'est dommage, quoi. C'est franchement dommage. Je regarde dans 20 minutes, là, dans le métro, là, un portrait de Jérôme Cahuzac, que je vous le montre. Mm-hmm. Il a un strabisme divergent, d'accord. Il ne faut pas se moquer des physiques, hein, si c'est pour rien. Mais quand il dit les yeux dans les yeux,
on aurait dû se méfier, c'est ça.
Alors, je trouve que François Hollande a dit, j'ai pas réagi si vite. Mais enfin bon,
on s'est mérité, hein, je pense qu'on peut y aller.
Ouais. Non, mais après, il constitue pas.
Attendez, il est médecin, donc il s'est installé en Corse. Je suis de Corse depuis 35 ans, par mariage, par alliance. Et ça va pas marcher. Il voudrait s'installer comme ça. Ça marche pas parce que aucun Corse, comme quoi ils sont pas complètement, ne veut s'associer. Et s'il a pas un associé corse, c'est exact. Ça sera marche jamais. Il va sauter. Et on lui demande de rester bien tranquille. Mais personne ne veut s'associer à un type qui a détourné ou qui a mis
donc
de côté.
Donc il y a quand même une sanction sociale, mais qui vient de son statut et de la médiatisation aussi. Quelqu'un qui n'aurait pas été autant médiatisé n'aurait peut-être pas cette sanction sociale.
Il a été sanctionné même avant le procès, puisque j'imagine des impossibilités
ça doit être son... Dans le même canard, ils disent qu'il sera non éligible. Mais moi, c'est dans quelques années, 5 ans, 6 ans. Mais c'est à vie. Il n'a plus aucune raison de se présenter, donc c'est même pas la peine d'en parler. Quoi. Enfin, je sais pas.
Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne leur donne pas les travaux d'intérêt général.
Oui, à la rigueur.
Ça, c'est une bonne idée.
L'abbé Pierre.
Il a éloché, bien sûr. C'est la meilleure solution.
300 000 heures. 300 000 heures.
Non, parce qu'il ne constitue pas un danger si on croit Cahuzac dans la rue.
Bénévole chez Emmaüs pendant 10 ans.
Puisqu'il s'occupe des cheveux, il fait des shampoings pendant des années. Voilà, il shampouine.
Il fera des permanentes, etc. Mais bien sûr.
D'ailleurs, Jérôme Cahuzac
dit lui-même que quand il donne l'heure, on ne le croit plus. Donc, attention, et là, ça s'assure. Christian Bugeaud est à notre compagnie jusqu'à 18h et Isabelle Sorrent est parmi nous.
Oui, les amis. Alors, je vais vous parler de flexibilité. Vous l'avez sans doute remarqué, nous vivons dans un monde où il est toujours possible de changer d'avis. C'est ce que le langage commercial appelle la flexibilité. La flexibilité, c'est cette propriété du roseau qui ploie, mais ne se rompt pas. C'est la souplesse du cou qui permet à la tête de tourner gracieusement de droite à gauche et de gauche à droite. Le cou, bien sûr, n'est flexible que jusqu'à un certain point, celui où les os de la nuque se brisent. La flexibilité a ses limites, du moins en ce qui concerne l'élasticité du corps humain. La flexibilité est exigée comme si elle allait de soi. Souplesse sur les horaires de travail, souplesse sur la quantité de travail fournie en échange d'un salaire dont le montant, lui, semble la seule variable étrangement inflexible dans un monde flexible. Et nous exigeons à notre tour la même flexibilité de la part de nos amis à qui nous demandons souvent au dernier moment de décaler un rendez-vous, de nous retrouver à un autre endroit. La flexibilité, encore elle, nous est offerte lorsque nous réservons un billet d'avion ou une chambre d'hôtel. Enfin, offerte, n'exagérons rien. La possibilité de modifier ses dates ou d'annuler son séjour nous est proposée comme un luxe puisqu'elle est facturée le plus souvent assez cher. Mais c'est tellement bon de se dire qu'on peut changer d'avis. Alors, nous sommes prêts à payer pour la possibilité d'annuler nos vacances. Même chose lorsque nous prenons un rendez-vous en ligne avec notre médecin, la possibilité précisée par SMS d'annuler le rendez-vous nous emplit d'un sentiment de puissance. Nous pouvons toujours l'annuler, ce rendez-vous. Alors nous sommes libres, pas vrai? Certains vous diront que les gens ne savent plus s'engager, que tout ça c'est la faute de mai 68. En général, ce sont les mêmes qui vous demandent par ailleurs d'être flexibles sur vos horaires de travail. Je ne crois pas que nous ayons peur de nous engager, non, je crois que c'est tout le contraire. Pourquoi est-ce que nous annulons un rendez-vous avec un ami, Charline? Pourquoi est-ce que nous modifions la date de nos vacances? Pourquoi est-ce que nous renonçons à nous rendre chez le médecin? Bien souvent parce que notre travail nous oblige à être flexibles. C'est-à-dire à ne pas partir, à ne pas rejoindre cet ami et à décoller le rendez-vous avec un spécialiste pourtant prévu depuis des semaines. Les générations flexibles n'ont pas perdu le sens de l'engagement, non, bien au contraire. La productivité est une loi qui nous engage jusqu'à la moelle et notre joie et notre santé sont devenues des variables d'ajustement, n'est-ce pas merveilleux ? Il y a beaucoup de choses où nous sommes engagés sans pouvoir revenir en arrière. Les choix de Donald Trump en matière de diplomatie, par exemple, nous engagent bien plus que la réservation d'un hôtel pour les vacances. Et ces choix-là ne sont réversibles pour personne. Je voudrais terminer cette chronique avec une pensée pour Melania Trump, qui se demande peut-être comment elle pourrait retrouver un peu de flexibilité et se désengager de toute cette histoire. La seule chose qui semble flexible chez elle, c'est sa main, qui échappe régulièrement à celle de son mari. Melania Trump me fascine, comme Jérôme Cahuzac d'ailleurs, comme des grands personnages de tragédie. Melania Trump est soignée cette semaine pour un problème de rein. Sa chargée de communication a indiqué qu'il s'agissait d'un problème bénin et que Melania sortirait de la clinique en fin de semaine. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder sur l'un de ces sites de psychologie où nos générations flexibles cherchent en vain le sens de la vie, ce que signifiait avoir un problème de rein. Et voici ce que j'ai trouvé. Un problème au niveau des reins signifie qu'il y a des émotions que tu n'as pas évacuées. Il y a des choses que tu gardes en toi et que tu n'oses pas exprimer. Tu es plutôt du genre à garder les choses pour toi, à ruminer dans ton coin. Tu as du mal à exprimer tes sentiments, à t'affirmer et donner ton opinion. Il se peut que tu aies eu des parents trop sévères qui ne te donnaient pas la possibilité d'être toi-même. Il se peut également que tu t'interdises de donner ton avis par peur d'être rejeté, jugé, critiqué, par peur de créer un conflit ou de blesser quelqu'un. Il se peut qu'en ce moment tu te sentes fatigué, vidé de ton énergie. Il se peut que des soucis professionnels ou personnels te demandent beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu es en train de perdre pied, tu n'en peux plus. Tu te sens seul et tu manques de soutien. Les peurs et les soucis font écho à ton angoisse et ont certainement déclenché ton problème de rein. Et c'est la fin de cette chronique sur la flexibilité dédiée à Melania Trump.
Merci Isabelle Sorante. C'était magnifique. Allez, vous prendrez bien un petit rafraîchissement sur France Inter. Il est 17h34. Restez avec nous. Tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classes de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite Anne. Que tu montes autour des diabolomantes quand tu racontes la nuit du dernier été et de tous premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant dans tes classes de lycée. Tes rêves C'est le Diabolomante proposé par Soko sur France Inter. Nous sommes en compagnie de l'acteur Christian Bugeaud, qui est aussi professeur d'art dramatique, notamment à l'école Jean Périmoni. Et j'en profite pour dire que vous avez mis en scène avec Jean-Pierre Lanfranquin récemment.
Lanfranqui.
Lanfranqui. Les Fourberies. Ah oui, évidemment. Il est corse.
Il est corse, oui.
Les Fourberies de Scapin de Molière en langue corse. Comment dit-on alors les Fourberies de Scapin en corse?
Scapino.
Ouais, et fourberie.
Non, je dis pas.
Non,
je
dis pas.
C'est Scapino.
C'est compris dans le corse, les fourberies.
Pas faire d'erreur. Ouais, on a simplifié, parce qu'autrement, ça c'est. Et les Fourberies de Scapin en langue corse. Donc, ce sera à Corté et Bastia prochainement. Je suis sûre que si vous êtes en Corse, vous allez trouver où, comment.
Ah oui, c'est sûr.
On vous laisse chercher comme ça, il y a un peu d'énigmes.
Vous disiez, Jérôme Cahuzac est invité.
Et Jérôme Cahuzac est invité.
Il joue.
Peut-être pas très accompagné.
Le rôle.
Il va peut-être glacer la salle.
Les places sont défiscalisées.
Salut à nos auditeurs qui nous écoutent en Corse et qui pourront aller voir les Fourberies de Scapin à Corté et Bastia, donc notamment mis en scène par Christian Bugeaud et Jean-Pierre Lanfranchi.
Bravo, bravo.
De rien. Il y a Guillaume Meurice à côté de vous qui lui a fait le cours Florent et regardez ce que c'est devenu.
C'est brillant.
Ah, c'est brillant. Vous voyez ce qu'il en fait.
Il n'y a pas que du bon. Il y a aussi Alexis Zorek qui a fait le cours Florent. Alors, chronique culturelle, tiens, aujourd'hui, puisqu'on en parle avec une idée expo, une idée sortie, une idée sympa à la préfecture de police de Paris. Alors, c'est vrai que culture et préfecture de police de Paris, c'est comme hygiène bucco-dentaire et Pablo Mira, c'est des mots qui ne vont pas bien ensemble. Mais eux aussi ont le droit de se cultiver. Eux aussi, ils commémorent mai 68 à leur manière, c'est-à-dire du côté des CRS, avec un angle assez intéressant, l'homme derrière le bouclier. Et on le sait que trop peu, mais effectivement, il y a une âme dans le viseur du flashball, il y a un cœur qui bat au bout du tonfa. Voilà, il y a un foie au fond de la bouteille de Ricard. Donc, j'y suis allé ce matin pour discuter avec les visiteurs, et autant vous dire que ce genre d'expo attire bien évidemment une belle bande de racailles.
Il faut dire que les étudiants avaient une forme de sympathie pour beaucoup de gens. Moi, j'étais à Jean-Jean Seyé, qui est un lycée du 16e, donc j'étais assez loin de...
Mais c'est pas Nanterre.
Mais c'est pas Nanterre, effectivement.
Voilà, alors Jean-Jean Seyé, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ZAD, mais zone à dividendes, plutôt. Voilà, disons, ils ont une section black bloc, mais le bloc, c'est des blocs de foie gras qui balancent depuis la cantine. Quand ils sont vraiment remontés, ils font des colliers en pinces de langoustes qui font tournoyer. C'est assez impressionnant à voir. Mais n'empêche que ce monsieur est venu à l'expo parce que quoi?
Parce que j'étais à mai 68, moi, mais du côté gaulliste. Donc j'étais le 30 mai... Je remontais les Champs-Élysées et donc
c'était plus calme alors au niveau des manifestants.
C'était plus calme. Je passais aussi mes concours pour entrer dans des écoles, donc je bossais.
Voilà, il n'était pas sur les barricades, mais dès qu'il y avait une manif contre mai 68, il n'hésitait pas. Et les manifs pro de Gaulle, c'était quelque chose quand même. Hein, je vous le rappelle, t'avais Malraux en tête de cortège qui gueulait gauchiste, si tu savais ta révolution où on te la met au cul. Enfin voilà, etc., etc. Ça avait quand même de la gueule, alors que les autres manifs, bah c'était juste violent.
CRS, SS, c'est profondément injuste, c'est même honteux, mais c'est incroyablement efficace. Quel contre-slogan créer, parce que ça aussi c'est de la désinformation.
Étudiant, dian, dian.
Je tente le coup, je recycle des blagues de l'almanach Vermeaux. On a du retard d'audience sur les grosses têtes, hein. Chacun son combat, ça c'est ma lutte, voilà. Elle est violente celle-là aussi. De toute façon, la lutte c'est violent. Tenez, encore une racaille qui supporte plus ça.
Je suis un peu effarée de voir jusqu'où l'homme peut aller.
Alors du côté policier
Non, du côté manifestant, et heureusement qu'il y avait des policiers, des forces de l'ordre à ces moments-là.
Ouais, excusez-moi, j'ai encore mes vieux réflexes de gaucho. Après, c'est vrai qu'il faut dire que les flics, souvent, c'est des prolos aussi, surtout à l'époque. C'est ça qui est fort avec les classes dominantes, c'est qu'ils ont les moyens de payer des pauvres pour se protéger. C'est une situation un peu figée. Si vous voulez, c'est comme un morpion qui aurait des morpions. Comment il fait? Il ne va pas s'asperger d'antimorpion. Vous voyez, c'est bien goupillé la civilisation pour que rien ne change. Oui, c'est visuel, hein, voilà, faut imaginer. Justement, j'ai discuté avec un jeune morpion, un jeune policier, qui était venu à l'expo et qui m'a vanté les mérites des CRS.
Franchement, ils ont un calme olympien. Quand même.
Alors, pas tout le temps, parfois.
Ouais, c'est ce qu'on me dit. Après, je me mets à leur place. Je comprends des fois que les réactions sont un peu.
Est-ce que vous mettez à la place des manifestants parfois?
Non, on n'est pas autorisé.
Et voilà, ben c'est ça le problème. Voilà, on devrait une fois de temps en temps inverser les rôles pour que chacun se rende compte. Ami manif, mettons, on change. Parce qu'un CRS qui dit, un pavé, ça fait mal à la tête, ok. Mais si un étudiant lui fait lire La Critique de la raison pure, ça sera peut-être pire. Donc on fait moite-moite à la prochaine manif. Je propose, je fais avancer le débat. Ça paraît absurde, mais je vais vous dire, la vie vie est absurde. Écoutez ce qui s'est passé au théâtre de l'Odéon, au lieu de la lutte dans mai 68, la semaine dernière.
Il y avait une soirée commémorative de l'envahissement de l'Odéon. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a des étudiants de 2018 qui ont essayé de rentrer dedans. Et donc, la direction de l'Odéon a appelé les CRS. Donc, la commémoration de l'envahissement de l'Odéon par les étudiants en mai 68 a été faite sous la protection des CRS qui gardaient l'entrée.
Ça veut dire que les 68 arts sont devenus CRS alors dans l'âme.
Mais nous on était dedans plutôt gênés quand même.
Bah, faut pas, il faut être décomplexé et ça se fait beaucoup ça maintenant. Regardez Romain Goupil, il est passé du maoïsme au macronisme en passant par Coluche et Georges Bush. Enfin, on a une belle équipe, il manque juste Pinochet et Annie Cordy pour qu'on l'appelle définitivement Camoulox. Mais ils s'en foutent, faut être à l'aise. Comme le lieutenant Masson, parce que oui, je suis désolé, mais une chronique sur les CRS ne peut pas faire l'impasse sur un extrait de mon documentaire préféré, Les combattants de l'ordre. Voilà, c'est mon petit plaisir, je vous fais le coup à chaque fois, mais avec le lieutenant Masson, on s'en lasse pas.
C'est pourquoi vous êtes là ?
Pour servir !
Plus fort !
Pour servir !
Eh bien, et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé ?
Mais c'est ça qu'on aime. Il y a un homme derrière le bouclier, mais il y a aussi une grosse qui prépare à manger pour son CRS. Et il y a Gérard Collomb qui surveille tout ça depuis son EHPAD. Et ça, c'est bon. Voyez, pour chialer, il n'y a pas forcément besoin de lacrymo.
Merci Guillaume Meurice. C'était encore une fois magnifique.
Vous disiez, vous y étiez à l'Odéon ?
Oui, ah, c'est ça, je dis, on a pris... Alors, c'était des comment ça s'appelle, des extrêmes droites, des barbouzes qui étaient là, qui avaient tout acheté au machin. Et attends, ça, il y a eu du sang. Ils ont balancé des bouteilles de bière. Ils ont balancé une. Ça, c'était pour les paravents de Jean Genet. Ça vous dit quelque chose,
hein? Ouais, bien sûr. Ouais.
Ils ont balancé de la quatrième galerie une chaise, et une chaise de quatrième galerie, ça se, il n'y en avait plus, ouais. Mais il y en a un qui l'a pris, qu'un texien qui l'a pris sur la tronche. Alors, Barrault a tout descendu le rideau, et on a vu un petit coulet de sang qui est passé comme ça sous le rideau de fer, voilà. Oh, c'était des grands moments. Il y a eu Michel Creton, je ne sais pas si vous dites
bien
quelque
sûr,
chose.
Ouais, ouais.
Et parce qu'on était en soldat. Moi, j'étais en arabe, hein, je ne sais pas. Mais lui était en soldat, en parachutiste, si tu veux, en bijard, tu vois. Et il a sauté, il s'est trouvé nez à nez. Il s'est trouvé ce qu'on appelle un perroquet, c'est-à-dire la loge de mise en scène. Ils se sont regardés un petit temps comme ça. Il a armé un coup de poing, il a fait de la boxe. Il s'écrase le coude parce que c'était tout petit l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a donc il y a eu un combat. Il y a eu Creton qui s'est fait tout seul. L'autre s'est caf. Enfin bon.
Elle n'est pas super claire votre anecdote, mais
c'est quelle année ça ?
Ouais, c'est ça. Ah
bah, c'est 67.
C'est 67. Vous étiez dans les comédiens sur scène, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Oui, j'étais au conservatoire et on a reçu des œufs à neuf. On sait la troisième galerie. Très très mal.
Et après, ça a été occupé, maintenant. Etc.
Les trucs pour les...
On n'avait pas la date.
Oui, pardon.
Ah, si, moi j'avais compris.
D'accord.
Oui. Oh, bon, excusez-moi. Il y avait des trucs pour fumer les blaireaux, il y avait des vaches.
Excusez-moi, moi je suis Christian, je suis l'émission, c'est tout.
J'ai vécu des choses.
Christian Bugeaud avec nous. Et aujourd'hui, figurez-vous que c'est la journée internationale du vivre ensemble, justement. Ouf. Alors, pour l'occasion, un sondage a été publié, ce qui induit que la fraternité peut apparemment se mesurer. Mais le résultat est un peu plombant. Il dit qu'un tiers des Français considèrent qu'on ne peut pas faire confiance.
Une fois à un homme. Mais on peut.
Prenez un chewing-gum, Alex.
C'est ça. Bon, les gens se font pas confiance, quoi. Voilà, je résume, voilà. Allez.
Il y a un curé, enfin, un curé propre.
Égalité. Ah. Ça va venir, le thème va venir à tout. Et Philippe Catherine chante mon cul, vous pensez à un curé, c'est cette histoire, Christian Bugeaud. Vous allez nous raconter une histoire de curé.
Non, mais j'étais dyslexique, mais à l'époque, on ne connaissait pas. Il m'a dit, vous me commérez 1000 fois, je commence à m'apercevoir que le verbe apercevoir ne prend qu'un P. Alors maintenant, je ne fais plus de fautes, mais 1000 fois, ça fait quand même 10 heures pour un gamin de travail. Enfin, pour un gamin qui devait en avoir 10, ouais. Je ne sais pas quel âge on avait à cette époque-là, en 6e. J'ai redoublé. 4 classes et je me suis fait virer 7 fois. C'est une sorte de Guinness.
Christian Bugeau, on parle donc de fraternité. Il y a dans Le Parisien aujourd'hui en France un article qui nous explique qu'il y a eu un baromètre de la fraternité qui montre que les femmes et les 25-34 ans sont les plus méfiants envers les autres, autres religions, autres couleurs de peau, etc. Et les retraités sont ceux qui accordent le plus confiance. Alors est-ce que vous pensez que c'est une question de génération? Vous qui enseignez l'art dramatique à beaucoup de jeunes et qui êtes en prise avec eux, qui les fréquentez assidûment, est-ce que vous voyez que c'est une valeur qui vraiment se perd et pour laquelle les plus âgés sont...
C'est un truc à double tranchant, la confiance. Parce que il y a, 150 écoles d'art dramatique, dont 145 relèvent de la correctionnelle. Donc, la confiance, les enfants font confiance aux professeurs, mais il y a des professeurs qui leur font faire n'importe quoi. Enfin, je parle pas de Florent, parce que celui, c'est le plus grand, machin, tout ça. Je le connais bien, je l'ai connu, etc.
Il y a des profs qui faisaient faire n'importe quoi.
Ouais, il y en a. Il était bon, hein. Il était bon.
Non. Lui, on l'a plus comme prof.
Il y en a qui ont fait des écoles dramatiques. Non. Ce qui m'étonne là-dedans, c'est que les membres d'une association sont très peu confiants. C'est extraordinaire. 49, ouais. Donc carrément 50% sont sceptiques, comme on dit. et les membres d'un mouvement politique, 47% sont également très peu confiants. Alors, c'est de là à conclure, j'essaie de vous faire dans votre sens, que les politiques se méfient des associations et lycée de Versailles. Ah oui. C'est criant, ça.
Oui, oui.
Alors, mon point de vue, si je peux me permettre,
allez-y, je vous en prie.
Moi, ça me tue. Hein.
C'est vous l'idée de l'émission.
Oui, c'est vrai, j'oublie pas. Mais rappelez-moi.
Oui, monsieur.
Oui, d'accord. vous savez très bien, vous, je vous l'ai déjà dit, trois enfants que j'adore et 8 petits-enfants que j'adore exactement. Ça se fait en amont, cette confiance. Vraiment, je vous jure. Ils nous font des coups et on ne les a pas éduqués pour ça. Je sais pas, j'apporte une petite poche de bonbons et ma grande Marie ne dit mon babo, on dit ça encore, c'est un babo, mamo, c'est comme en Italie. je vais attendre que mes frères soient là pour partager. On lui a jamais appris ce truc-là. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des bonheurs comme ça, mais je suis sûr que ça se prépare en amont. Ça remonte même au Néandertal, parce qu'on a eu des feux, on vient de là tous, on a un petit machin, il y a eu des feux, il y a des endroits où on vient, ma femme qui est corse, Pauline Massia, est tombée en amour de la région de Crépy-en-Valois. Pourquoi ? Moi, dans ce coin-là, j'ai trouvé un silex, un biface. J'ai appris, en m'adressant aux exégètes, que... Il y avait 3 chances sur 4 pour que ça soit mon ancêtre. Hey. C'est extraordinaire. Il est beau.
C'est profondément ancré. Vous
votre ancêtre est un silex.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
On est resté très dur.
C'est la fraternité.
Tranchant même.
Bah, ça, c'est Babo. Hein. C'est Babo qui nous a emmenés.
Pardon, j'ai outrepassé.
On parlait de la confiance, et notamment avec vos élèves, et notamment donc, à l'école Jean Périmoni. Et j'informe les Parisiens, et puis ceux qui sont de passage à Paris le 29 juin, que vous mettez en scène l'école des femmes de Molière pour une représentation au théâtre Tristan Bernard, jouée par vos élèves. L'école Périmoni, on peut donc voir la méthode Bugeau, la méthode Babo.
Exactement. Ah, mais en plus, c'est vrai, c'est pas du tout, c'est une sorte de... comment on peut dire? C'est une farce tragique. Et vraiment Buster Keaton là-dedans, etc.
29 juin, ouais. Théâtre Tristan Bernard.
Mais déjà 210 réservations.
Alors dépêchez-vous. 17h51 sur France Inter et on passe la parole à celui qui vient d'être élevé au grade de grand chevalier de la Légion d'horreur.
Oui.
C'est
ouais.
vous, Pablo Mira.
Tout à fait.
Et Pablo, vous revenez sur la manifestation à la frontière entre Israël et Gaza qui a eu lieu lundi et qui a dégénéré en massacre avec une soixantaine de morts et des milliers de blessés côté palestinien.
Oui, Charline, à Gaza, la guerre a avalé les couleurs pour mettre du vert pistache à... Attendez, qu'est-ce que c'est que ce discours de Miss France? Attendez, on m'a refilé une vieille chronique de Nicole Ferroni. Ça va pas le faire, excusez-moi. Non, je suis désolé, de toute façon, c'est pas grave, j'ai toujours un deuxième exemplaire de mon édito sur moi.
Dans la veste.
Donc, je vous disais, Charline, lundi, pour se protéger face aux Palestiniens, l'État d'Israël a donc déclenché l'opération Sunlight des Tropiques, qui consiste à tirer sur une foule mais à l'aveugle. Un massacre qui est intervenu seulement deux jours après qu'Israël a massacré la pop musique à l'Eurovision. En effet, l'armée de Tsahal n'a pas hésité à ouvrir le feu sur... mince, attendez. Comment ils s'appellent déjà ces personnes-là qui vivent là-bas, là, qui sont comme nous, mais... Les êtres humains, oui, pardon, ils n'ont pas hésité à tirer sur des êtres humains. Et le but de cette opération était double, Charline. D'une part, disperser la foule, mais aussi faire comprendre aux Palestiniens et qu'au jeu pierre, feuille, ciseaux, sniper, et c'est le sniper qui l'emporte sur tout le reste. Et le bilan, vous l'avez dit, est lourd, c'est vrai. 59 morts, près de 2400 blessés et aucune, je dis bien aucune, sanction internationale contre Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Vous voyez, finalement, ça servait à rien de la tourner cette nouvelle saison de Koh-Lanta. On sait déjà qui a chopé le totem d'immunité. De nombreux pays, dont la France, dénoncent tout de même une réponse disproportionnée. Mais le problème, et là on rentre dans le cœur du problème, c'est que les Palestiniens de Gaza, ils ne comprennent que la violence. Je veux dire, avant ce drame, toutes les méthodes non létales pour disperser la foule avaient déjà été utilisées. Et en vain, hein, les balles en caoutchouc, les gaz lacrymogènes, les films avec Richard Anconina, rien ne marche sur ces gens-là. Et l'escalade était inévitable. Pauvre comme l'a très bien expliqué Benjamin Netanyahou sur la chaîne américaine CBS, puisqu'il a dit, je cite, deux points, ouvre les guillemets, tout ceci est vrai. Israël essaie par tous les moyens non létaux de tenir les Gazaouis à l'écart de sa frontière. Ça ne marche pas et il ne vous reste que des mauvais choix. Vous visez sous le genou et parfois, malheureusement, ça ne marche pas. Et, mais c'est vrai, mais c'est des choses qui arrivent aussi, Charline. Hein, vous visez la rotule d'un terroriste du Hamas et puis ça finit, voilà, 400 mètres à gauche dans le visage d'un ado. Mais ouais, mais il y a du vent aussi à Gaza. Ouais, ouais, ça souffle, hein, les gens ne le savent pas, mais le deuxième loisir préféré des Gazaouis, hein, après le malheur, c'est le char à voile. Et ça, on n'en parle pas. En plus, pardon, je m'énerve, Charline, je suis vraiment, c'est parce que je suis indigné. En plus, pardon, mais Israël, il faut le dire, n'a agi qu'en état de légitime défense. Les soldats avaient en face d'eux des Palestiniens enragés, il faut le dire, c'était fou. Je ne sais pas si vous avez vu les images, on avait l'impression qu'on venait de leur passer la reprise de Bella Ciao par Maître Gims. Ils étaient fous. Donc, on critique la réaction violente d'Israël, mais reconnaissez tout de même que, voilà, si vous êtes chez vous, imaginez, vous êtes chez vous, et que vous voyez débarquer à votre porte vos voisins, et qu'ils viennent pour vous mettre des coups de couteau, vous faites quoi, Charline? Eh bien, vous prenez votre fusil de sniper et vous tirez dans la tête de tout le lotissement. C'est comme ça qu'on fait. Alors, c'est vrai qu'une partie des Israéliens ont pas mal de ressentiment envers les Palestiniens, mais il faut dire que c'est horrible aussi ce que les Palestiniens font subir aux colons israéliens qui récupèrent leur maison. La déco est pourrie. L'électricité n'est pas aux normes. L'isolation du toit, il n'y a même pas de toit. Non, moi, je vous le dis, j'aurais honte de laisser une maison comme ça à mon pire ennemi, Charline, très honnêtement. En fait, tout ça, je vous le dis, ne serait pas arrivé si le Hamas n'avait pas non plus instrumentalisé les Palestiniens pour qu'ils se fassent tuer par les soldats de Tsahal. Le Hamas, on rappelle ce que c'est. Le Hamas, c'est une organisation terroriste, un peu comme Daesh, sauf que eux poussent leur antisémitisme bien plus loin. Pour eux, un juif n'est même pas un homme, ce n'est même pas un animal. Pour eux, un juif, c'est une femme, quelque part. Le Hamas qui, au passage, en instrumentalisant le peuple palestinien, entrave gravement, mais gravement, le droit des soldats israéliens de leur tirer dessus pacifiquement. Pour conclure, pour éviter une escalade de violence, moi je crois que voilà que le mieux, ce serait, c'est triste, mais que les Palestiniens quittent cette région du globe et puis refassent leur vie ailleurs, dans un endroit où ils pourraient être opprimés en toute sécurité. Même si je reste, et là c'est mon avis perso, persuadé que ces deux peuples, s'ils le voulaient vraiment, et pourraient cohabiter pacifiquement, parce que je sais que c'est possible de vivre aux côtés d'une personne que l'on déteste. Après tout, voilà, Christine Angot le prouve chaque jour en vivant avec elle-même. Allez, salut.
Pablo Mira, vous êtes Charlie. Merci Pablo. On enchaîne tout de suite parce qu'on est en retard. Christian Bugeaud avec un petit exercice, un sketch si vous êtes d'accord.
On propose un sketch à l'invité. On s'est dit que vous pourriez reformer votre couple des visiteurs avec Charline. Mais cette fois, le visiteur, c'est un migrant. On y va tout de suite.
C'est un migrant?
Oui.
Chérie, le migrant est arrivé.
Alléluia. Remercions le Seigneur.
Alors, vous n'êtes pas le migrant, vous êtes,
vous êtes
le
mon mari. Oui. Vous êtes mon mari.
Ah, bon, pardon. Ah oui, oui. Ah, d'accord.
Bonjour, bienvenue en France.
Merci, ravi de vous rencontrer.
Alors, où parlez France?
Oui, j'ai appris les bases avec les CRS de Calais. Dégage, tes papiers.
Ah, c'est formidable. Vous venez d'où?
D'Irak.
Ah, mais c'est très beau l'Irak, l'Amérique du Sud, c'est un enchantement. Ah,
mon chéri, c'est pas l'Amérique du Sud, enfin.
Ah, bon ah, je crois confondre avec l'Irigoyen. Je suis étourdi comme un hanneton.
Oh, tu sais, l'Irak, c'est là où il y a de la pluie, du vent, puis des lutins.
Non, ça, c'est l'Irlande.
Ah, ah ben, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Un jour, on finit, ben, oublie sa tête.
Ah, faites attention, parce que ça, c'est arrivé à des amis à moi, d'où mon déménagement.
En fait. Papa, papa, c'est qui
Un ami de ta mère.
Oui, c'est ça, on l'héberge pour gagner notre paradis.
Et d'ailleurs, il va dormir dans ta chambre.
Ah, maman, je veux pas aller au paradis, alors.
Alors, pour tous ceux qui prient 5 fois par jour, on va vous aménager un petit coin là, dans la buanderie.
Je ne prie pas 5 fois par jour, hein, vous savez, bon, je suis pas si dévot.
Ah bon? Vous avez une dispense?
Lombalgie pour problème de genoux?
Non, je ne suis pas musulman en fait, je suis chrétien d'Orient.
Mais oui, bien sûr, ça, je vois comme le nez au milieu de la figure.
Et puis on avait demandé explicitement un réfugié chrétien. J'ai la tête en l'air.
Ouais, comment ça se passe chez vous, la cohabitation avec les Arabes?
Ah, vous avez appris la langue?
Mais c'est-à-dire, je suis arabe aussi.
Ça n'existe pas, les chrétiens arabes!
Ah bien, je le découvre aussi.
Ah, moi, je n'y comprends plus rien, moi. Je croyais que vous étiez de l'Orient.
Non, je suis un chrétien d'Orient. Ah. Je suis pas un chrétien de l'Orient.
D'accord.
Coup, c'est... Non, excusez-moi, mais c'est un peu compliqué en ce moment avec les chrétiens d'Orient.
Ah, ben oui, je ne vous cache pas qu'on a connu des meilleures périodes. Oui,
à cause des arabes?
Non, à cause des djihadistes.
Je ne comprends rien, maman!
Ah, non plus.
Vous savez ce que sont les djihadistes?
Bien sûr.
Des extrémistes religieux.
Oui, oui. Ah, nous aussi, on en a, je ne supporte pas.
Il a imposé la messe en latin dans ma paroisse, ou dans les cours.
Oh, ça a dû être très violent. Oui. Ah,
d'ailleurs, vous la faites en quelle langue, vous, la messe?
Nous, on célèbre la messe en arabe, bien sûr.
Écoutez, le mieux, c'est que vous rentriez chez vous, là, je crois. Hein.
Oui, on va plutôt prendre un étudiant allemand en Erasmus.
Merci beaucoup,
merci.
Christian Bugeaud, qui a passé 7 heures avec nous. Merci beaucoup, merci à tous.